Chapitre 2. J'appris une belle histoire que Marguerite Charmesson racontait et qui se répétait par la ville. Lorsque Marguerite avait eu 15 ans, son père l'avait menée à Rome. Rome et les seuls noms des villes anciennes de l'Italie, le nom de l'Italie même, ont une magie qui transporte d'avance et agrandit, dans l'œil de la jeunesse ardente, toutes les images qu'il y pourra rencontrer. À Rome, Marguerite avait eu pour voisin de table d'hôte un jeune Anglais fort distingué et disciple du célèbre cardinal Newman qu'il fréquentait. Ce jeune homme, au dire de Marguerite, avait des cheveux d'enfant, des dents de femme et des yeux de la couleur de l'eau qui clapote au fond d'une caverne marine. Il se nommait Lord Wolseley. Il racontait à sa jeune voisine la vie de Newman, ancien pasteur anglican, âme angélique et poète. Il lui récitait de ses vers composés à Corfou, à Naples, à Taormine. Puis il lui disait sa conversion retentissante au catholicisme romain. Enfin, son élévation aux plus hautes dignités de l'Église. Marguerite, touchée qu'un si noble et si parfait jeune homme la prit pour confidente de ces choses, l'écoutait avec passion. Elle voyait le grand Newman dans les yeux céruléens de son lord charmant, et déjà s'accoutumait à confondre le jeune homme et le prêtre. Tantôt, elle tremblait devant Lord Wolseley comme vis-à-vis d'un père de l'Église, tantôt elle rêvait qu'elle était devenue toute petite, si petite, qu'il l'emportait dans l'étui à cigares, qu'il glissait dans la poche de son smoking contre son cœur. Un jour, Lord Wolseley lui demanda « Mademoiselle, voulez-vous être présentée à son éminence ?»« Son éminence ?» Elle oubliait qu'elle ne l'avait point vu encore. Cela ne l'effrayait pas trop de voir son éminence. Elle eut plus d'épouvante lorsque Lord Wolseley lui dit « Si vous le permettez, je viendrai vous prendre avec monsieur votre père. » Elle mit son trouble sur le compte de son père. « Y pensez-vous, papa, député anticlérical ?» Le jeune lord sourit, signifiant que cela avait bien peu d'importance. Le député sourit aussi et dit « Oh, si loin du palais Bourbon !» Cependant, Marguerite témoigna le désir de voir une première fois Newman de loin. Un matin, à Saint-Pierre, dans une chapelle, le cardinal Newman disait une messe basse. Lord Wolseley, agenouillé 20 minutes sur la dalle, communia. Marguerite vit Lord d'un vitrail se mêler à l'or des cheveux d'enfant de son ami et la neige de la tête du grand vieillard se confondre avec celle du pain divin. Elle s'évanouit. Au milieu d'un peuple prosterné, son père la secouait par le bras en lui disant « Godiche, Godiche !» Elle eut l'honneur d'approcher Newman dans les jardins du Pincio. Il se garda de toute parole mondaine, et comme il avait paru connaître le nom du député de Paris, non sans aménité mais sans faiblesse, qu'il vénérait quant à lui, dans les persécuteurs de l'Église, les artisans inconscients d'une œuvre sacrée. « Qui sait, dit-il, si Néron, dont l'horrible règne donna tant d'élan à la vertu chrétienne, à l'œil de Dieu, ne vaut pas l'apôtre Pierre. Il est nécessaire de contempler une longue suite de siècles pour l'intelligence complète des grandes vérités, etc. » Il avait ajouté, durant 5 minutes au moins, des choses magnifiques. Lord Wolseley se penchait vers Marguerite pour traduire, toutes choses encore, les paroles du cardinal, et de sa main, translucide comme un émail, il lui indiquait la bouche du saint homme qui élevait savamment l'entretien et la ville éternelle étendue au pied de la colline. « De beaux moments !» disait Marguerite. Eh bien, ce jeune Lord Wolseley était mort. Marguerite avait eu l'insigne et douloureuse faveur d'apprendre cette catastrophe de la main même du grand Newman, le cardinal ayant ajouté en post-scriptum qu'il écrivait en accomplissement d'un des désirs derniers de son noble ami. « J'ai la lettre, » disait-elle, et elle la montrait comme autrefois la photographie de Mounet Sully. Elle vivait du souvenir de cette quasi-idylle mystique où la figure de l'amant se confondait avec celle d'un saint sur les collines romaines ou dans l'atmosphère affolante des chapelles, idylle embellie par la mort, mieux que cela, par une mort incomplète en un sens et qui faisait durer le mystère, puisque Marguerite, qui ne s'avouait pas à elle-même son amour pour le jeune lord, ne séparait pas en son esprit les deux catholiques anglais, dont l'un, celui dont elle pouvait parler sans se compromettre, était vivant et lui écrivait. Voilà pourquoi elle avait renoncé à réciter des vers de M. de Bornier et à porter l'image sanguinolente d'Édipe, pourquoi elle nous avait paru si réservée et si grave à la matinée Plancoulaine. Pour le moment, la fille de l'athée, élevée sans principe, ne parlait de rien de moins que de se faire religieuse. Comme tout me paraissait petit en comparaison des souvenirs que portait Marguerite. Je me rappelais sa nature inquiète autrefois, son cœur toujours bondissant, sa figure enflammée. À cause de cela, dans les rêves que je faisais sans cesse de quelque chose de plus beau que ce que l'on voit tous les jours, j'associais Marguerite à mes féeries intimes. Je l'attendais, je comptais sur elle. Maintenant, je savais qu'il lui était arrivé une aventure qui, pour moi, la haussait au-dessus du commun des mortels.